Bonsoir, merci d'être nombreux encore ce soir pour la deuxième soirée du colloque. Nous allons poursuivre ce programme avec, nous avons la chance de découvrir en avant-première un épisode de la série réalisée donc par Jacques Luzot et Jacques Perrin. Qui s'intitule, c'est l'épisode 3 du Peuple des forêts. Jacques Luzot va nous le présenter. Donc Jacques est réalisateur. Il a notamment réalisé avec Jacques Perrin Le Peuple migrateur, Océan et en début 2016 Les saisons. Et il va donc nous présenter cette série. Je voulais remercier beaucoup donc Jacques Luzot, mais aussi Galatée Film, Épaté et France Télévisions qui nous fait donc le plaisir de pouvoir vous montrer cet épisode ce soir, en sachant que ce sera diffusé, comme vous avez pu le voir dans le programme, en exclusivité sur France Télévisions le 24 décembre. Je laisse donc la parole à Jacques Luzot.
Bonsoir. Eh bien, écoutez, oui, c'est assez émouvant parce que ce que vous allez voir, cette série-là, vient juste d'être terminée. C'est tout chaud. Il y a un Blu-ray qui est en cabine, qui vient de sortir, ça sort de presse, quoi. Alors voilà, c'est un moment étonnant pour nous. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir donc le troisième épisode d'une série faite pour la télévision à la suite du film Les Saisons. Donc depuis 15 ans, avec Jacques Perrin, avec Stéphane Durand qui est là, qui modérera tout à l'heure le prochain panel, et nous avons coutume de faire après un film qui est fait de peu de paroles, qui s'adresse aux sensations, une série qui développe davantage, plus documentaire et qui dit plus de choses. Et particulièrement pour Les Saisons, nous avions une forte envie de prendre la parole dans le cadre d'une série pour aller au-delà du film. Donc quand nous travaillons, nous avons une chance formidable, c'est de rencontrer les spécialistes du genre. Donc le premier, ça a été Stéphane, qui était ornithologue, tout jeune, il y a combien, 17 ans, voilà, qui sortait de l'école et qui est venu nous conseiller pour Le Peuple migrateur. Et puis ensuite, il est resté avec nous pour faire le lien entre la communauté scientifique et nous, pauvres cinéastes, essayons de sentir ce que l'on pouvait choper là-dedans, dans le sens où on ne fait pas un documentaire pour donner la parole, pour dire, pour répéter ce qu'on a appris, mais pour aller à la quête des sensations. Et le meilleur conseil qui nous avait été donné, il a été il y a longtemps maintenant par Jean Dorst, qui était directeur du muséum et puis l'auteur que vous connaissez, et qui nous a dit, vous, votre travail, c'est de les faire aimer, les oiseaux, puisque c'était un film sur les oiseaux. Le reste, on s'en charge. Donc effectivement, notre travail, c'est d'amener sur un écran de cinéma, puis de télévision, des images qui vont toucher les gens, qui vont faire qu'ils vont aimer les animaux qu'ils voient, qu'ils vont être libres de faire leur parcours personnel. Ce qui fait que nos films sont reçus dans le monde entier par des gens très différents, d'une façon très similaire. On trouve le même type d'émotion en Inde, en Chine, ou aux États-Unis, ou en Australie, par rapport au public, puisqu'on ne livre pas de messages, on ne donne pas de conseils, on ne dit pas ce qu'il faut faire. Alors ça nous est reproché aussi par tout un public plus documentaire, qui lui se retrouve davantage dans un type de film comme voilà, le type de film que vous allez voir ce soir. Alors, je crois que j'ai fait un peu la trajectoire. Pour ce film, nous avons été accompagnés par des scientifiques et des littéraires d'horizons très différents, puisque nous avons travaillé pour une partie ancienne avec des archéozoologues comme Jean-Denis Vigne, à qui nous avons posé des questions sur le chien et les débats qui ont eu lieu depuis hier ici. C'était bien intéressant parce qu'on voit que ce sont des choses qui évoluent beaucoup. Les choses ne sont pas figées dans la connaissance du passé. Donc ça nous fait peur aussi parce qu'on prend aussi des positions dans des films, on dit quelque chose, on en entendra ici. Et puis on se dit, mais est-ce que dans un an, est-ce que dans deux ans, ça sera caduque, on aura découvert autre chose, etc. Donc Alors, j'en reviens à la série et je vais finir parce que voilà, je crois que j'avais prévu de vous dire quelque chose pendant juste quelques minutes. La série est divisée en trois épisodes qui correspondent à trois parties. La première partie s'appelle L'âge de glace. Mais l'âge de glace, donc, il s'agit d'un flashback. Vous le verrez au début. Nous partons de Paris, d'ici, et puis nous retournons dans le passé pour avoir un point de départ. Il y a 20 000 ans, âge de glace, avec une question: où sont cachés les arbres? Où sont cachés tous les animaux qui craignent le froid? Voilà, et c'est peut-être, si on posait la question ici, on n'aurait pas forcément les bonnes réponses. Donc c'est aussi pour ça que j'avais, moi, personnellement, très envie de faire cette série. C'était pour qu'on comprenne un peu ces systèmes air glaciaire, interglaciaire, glaciaire, interglaciaire, et qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, vous ne le verrez pas aujourd'hui, sauf vous pourrez le voir le jour de Noël, si vous voulez, puisque la série sera diffusée en intégralité. C'est le premier épisode. Le deuxième épisode, c'est l'âge d'or de la forêt. Pendant quelques millénaires, assez court, l'Europe est recouverte d'une forêt complètement, et les animaux y vivent, quelques hommes, chasseurs-cueilleurs, et la vie se déroule au rythme des saisons. Ça, c'est l'objet du deuxième épisode. Et là, on arrive à celui qui va être présenté ce soir, qui semblait plus en rapport avec les débats qui ont lieu depuis hier, et qu'on a appelé « Au fil de l'histoire ». Et ce que l'on a essayé de faire, vous avez vu Éric Baratet hier, historien qui a écrit un livre qui nous a beaucoup marqué, qui s'appelle « Le point de vue animal ». Et on a essayé, en tant que cinéaste, de suivre cette évolution de l'histoire qu'on raconte toujours du point de vue des hommes. On a essayé de se mettre aux côtés des animaux. Je ne parlerai pas d'un point de vue, mais aux côtés des animaux. Donc, on a essayé de parcourir l'histoire à grands coups, puisque là, ça va aller très, très vite. On va partir de moins 6000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, en 52 minutes, ça va aller très, très vite. Alors, je me permettrai de dire juste un mot à la fin de la projection, parce qu'il y a une question qui se pose fréquemment, et comme après on enchaînera sur un débat, moi, ce qui me ravit, parce qu'on ne va pas faire un débat sur le film, mais il y a certainement des questions qui vont faire écho dans la table qui va venir après, la table ronde, et j'ai l'impression que par rapport à tout ce qu'on a pu entendre depuis deux jours, eh bien, il y a aussi beaucoup de choses dont le film aurait pu être un écho. Voilà, alors je vous souhaite une bonne projection pour cette avant-première qu'on va tous découvrir ensemble.
Je vais redonner la parole à Jacques pour qu'il voudrait faire un petit commentaire sur le film et puis nous passerons au débat.
Voilà, plus qu'un commentaire, juste une précision. Quand on fait des films de guerre, personne ne se pose la question de savoir si les acteurs ont été blessés ou ont été tués. Hein, ça va de soi. Pour un film de nature, c'est moins évident. Pourquoi ? Parce que depuis très longtemps, on voit des films où, lorsqu'on assiste à une prédation, on voit la mort d'un animal. Quand on le voit blessé ou tué, on ne doute pas que ça soit vrai. Donc c'est pour ça que je me permets d'amener cette précision. Vous avez vu un film fait pour le cinéma, pour lequel, évidemment, on n'a ni blessé ni tué le moindre animal. Malgré les apparences, je dis ça parce que la question nous est souvent posée. Les abeilles que l'on voit agoniser dans les gaz de moutarde se réveillent pour retourner à leur ruche. Hein, donc il n'y a pas de souci à se poser. La chouette, évidemment, qui est prise dans son piège, va très bien. Elle est sur le point de... Voilà, on sait faire par le cinéma, donner des impressions. Alors je le précise simplement, il en va de même pour les loups. Tout le monde va très bien. Et même ce hérisson qui est pris dans les griffes du grand-duc se porte à ravir. Hein, voyez. Donc n'oubliez pas qu'on ne fait pas des films en maltraitant les animaux ou, évidemment, ou même en étant témoin de leur mort. Pour Océan, la question nous a été beaucoup posée. Ça a même posé des problèmes de sortie du film, puisque nous avons filmé l'aileronnage des requins. Et pour nous, il allait de soi qu'on n'allait ni être les témoins de pêcheurs en train de couper des ailerons de requins, ni le faire pour de vrai. Donc nos requins sont des animatroniques en plastique. Eh bien, ça a été très difficile à faire admettre. Parce qu'à partir du moment où on dit ça, les gens se disent « Mais alors, et le reste, est-ce que c'est vrai ?» Alors, on fait du cinéma, et ce que l'on essaie d'avoir vrai, entre guillemets, c'est ce qui est raconté. Les loups, voilà, quand on a tourné la scène, il y a quelques années, les loups n'étaient plus tués en France. Mais on ne pensait pas que ça aurait pu recommencer un peu plus tard. Voilà, ben, maintenant vous allez avoir sur le prochain plateau beaucoup de personnes, au moins Stéphane Gilbert Cochet et Stéphane Durand, qui ont été nos partenaires et les auteurs du film et de la série. Voilà, ben, bon débat maintenant, merci.
Merci Jacques. Merci encore à Jacques Cluzot, Jacques Perrin, à Galatée Film de nous avoir permis d'avoir ce privilège ce soir de voir cet épisode en exclusivité et en avant-première. Je vous rappelle que ça sera diffusé le 24 décembre au soir sur France 2.